Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez RDOA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. De retour dans les studios pour 2018, Corinne Morel-Darleux, bonjour.
Bonjour à vous.
Nous allons parler un peu de cette commission permanente du 18 janvier dernier, un peu parce que finalement il n'y avait pas grand-chose. Et puis nous parlerons de tout un tas d'autres sujets, mais d'abord, vous êtes vœux, vous ?
Oui, alors effectivement, moi je ne suis pas très vœux, j'ai toujours un petit peu de mal avec cette habitude de s'envoyer des cartes de début d'année. En plus, la plupart que je reçois sont des cartes institutionnelles où les gens ne prennent même pas le temps de mettre un petit mot ou de signer, et j'avoue que je ne réponds pas à toutes.
C'est pas très personnalisé et c'est souvent pas très joli. Par contre, toutes les personnalités politiques le font. Est-ce que vous voulez vous en fendre de quelques-uns pour nos auditeurs de RDOA et puis d'ailleurs, puisque ça se promène beaucoup, cette émission?
Alors oui, c'est effectivement un passage obligé qui est souvent assez hypocrite. Moi, j'ai par exemple, parmi les premières que j'ai reçues, j'ai eu la surprise de découvrir une carte de vœux de Brice Hortefeux qui m'était adressée, ce qui me paraît... Bon voilà, je ne suis pas sûre en fait qu'il me souhaite tant de bien que ça, notamment d'un point de vue politique. Et puis, ça donne à chaque fois lieu à un certain nombre de dépenses d'argent public dans des buffets, des cocktails, des mises en lumière. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes, son siège à Lyon, n'a pas échappé à la règle, puisque cette année, il y a eu les vœux de Laurent Wauquiez avec une belle mise en lumière de l'hôtel de région. Et puis, un chantier qui a été confié à une grosse entreprise d'événementiel de Lyon, qui s'appelle GL Events, dont on a eu la surprise d'apprendre qu'elle avait eu recours à des travailleurs non pas locaux, mais venus de Paris, dont certains étaient de nationalité roumaine et ne parlaient pas français. Alors, si ça nous a surpris, c'est pas tant parce qu'on serait surpris de ce type de pratique dans les grandes entreprises, mais plutôt parce que Laurent Wauquiez nous avait quand même fait tout un foin l'année dernière avec sa clause Molière, soi-disant pour lutter contre les travailleurs détachés et pour s'assurer que tous les chantiers de la région soient confiés à des entreprises locales ou au moins avec des salariés qui puissent parler français. Et puis là, on voit que finalement, il est dans la droite ligne des directives libérales européennes en appliquant lui-même cette concurrence entre travailleurs. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis du coup, je suis allée voir un petit peu plus près ce qu'était cette entreprise, la GL Events. Il se trouve que c'est une entreprise qui est présidée par quelqu'un qui s'appelle Olivier Ginon, qui est un grand ami de Gérard Collomb, qui avait voté Nicolas Sarkozy aux primaires de Les Républicains, mais qui a soutenu François Fillon et organisé son meeting à Lyon pendant la présidentielle, donc proche des réseaux de Les Républicains. Mais c'est aussi une entreprise qui a été suspectée de connaissance d'informations confidentielles et utilisation dans un cadre concurrentiel. C'est-à-dire que concrètement, le même Olivier Ginon a eu connaissance de documents sur le modèle économique du parc de l'OL, de l'Olympique lyonnais, et sur son projet en matière d'événementiel, ce qui évidemment d'un point de vue pro était très intéressant, et il a ensuite démissionné de son poste d'administrateur. Donc on a des petits conflits d'intérêts qui semblent traîner aussi du côté de cette société, qui a d'ailleurs aussi été citée au moment du scandale des Panama Papers, puisqu'elle avait créé une filiale offshore à Dubaï, qui a depuis été liquidée. Et puis enfin, on apprend assez facilement dans la presse que cette société, GL Events, travaille avec une agence de communication qui s'appelle Communiquer. Et que l'ancienne directrice de la com n'est autre que la vice-présidence à la culture actuelle de Laurent Wauquiez, Florence Vernet-Caron. Alors certes, elle a lâché son poste chez Communiquer lorsqu'elle a été nommée vice-présidente. Mais ce poste a été généreusement confié à son fils et elle s'est elle-même retrouvée dans une situation pour le moins embarrassante puisqu'elle a voté en commission permanente une subvention de 40 000 euros au profit de GL Events. Voilà, donc c'est toujours intéressant d'aller gratter un petit peu les petites brèves du progrès ou du Dauphiné libéré, puisque on n'y voit pas tout, et finalement, quand on fouille un peu, on se rend compte, une fois de plus, de l'aspect tentaculaire d'un certain nombre de ces réseaux régionaux.
Vous avez pu, avec le rassemblement à la région Auvergne-Rhône-Alpes, faire remonter ce type d'informations, aller jusque peut-être la justice. Est-ce qu'il n'y a pas un cas, là, justement Tout près.
Alors c'est effectivement typiquement le genre de cas qu'on fait remonter, sur lequel on alerte et sur lesquels on saisit parfois la justice. Alors pas à chaque fois, parce que ça nous demanderait quasiment un travail à plein temps et qu'on a aussi d'autres tâches en tant qu'élu. Mais on est là typiquement dans le même genre de cas que celui pour lequel on a saisi le procureur de la République sur des soupçons de prise illégale d'intérêt à l'encontre de Gilles Chabert, le conseiller spécial à la montagne de Laurent Wauquiez, qui lui aussi s'est retrouvé à instruire et à voter des subventions publiques à des organismes dans lesquels il avait des intérêts. C'était le cas, par exemple, de la Compagnie des Alpes, dont il était administrateur. Alors, il a depuis démissionné de son poste, mais il est toujours, par exemple, président du syndicat national des moniteurs du ski français, qui, évidemment, sont ravis de voir la région investir 33 millions dans l'enneigement artificiel et les canons à neige qui leur permettent de pouvoir continuer à exercer leur activité. Donc voilà, c'est le genre de cas qu'on soulève. Parfois d'ailleurs avec un certain écho, hein, puisque sur le cas de Gilles Chabert, le procureur a demandé qu'une enquête préliminaire soit lancée. Elle a été confiée à la police judiciaire de Lyon et à ce jour, elle est toujours en cours.
Qui peut saisir là ?
Il y a des associations hein, qui se saisissent de la justice sur ce type de cas. Il y a les grandes qu'on connaît, hein, type Anticor ou Sherpa. Et puis il y a aussi des associations locales de contribuables, notamment du côté de l'Ouest lyonnais, particulièrement Tatillon et Procédurier. Mais enfin, parfois, ça a du bon parce que ça permet justement de se relayer et d'être plusieurs à pouvoir alerter sur ce genre de pratiques.
Parlons de cette commission permanente du 18 janvier. Alors, on le rappelle aux auditrices, auditeurs, hein, y a peu de plénières prévues en 2018. Il y en a déjà eu peu en 2017. Donc, c'est quelques commissions permanentes qui vont venir comme ça combler les trous. Une ambiance pas terrible hein, dans cette commission du 18 janvier.
Alors non, effectivement, une ambiance pas terrible parce qu'il se trouve que la semaine d'avant, on était réunis dans les commissions thématiques dans lesquelles on peut discuter de ce qui va être soumis au vote, poser des questions, intervenir, etc. Et il se trouve qu'en pleine journée de commission à la région, il y a eu un petit scandale du côté de la rédaction de France 3 Région qui avait commencé à diffuser sur Facebook et sur son antenne une série de 5 reportages sur la gestion de Laurent Wauquiez à la tête de la région. Le premier s'est bien passé, le deuxième aussi, le troisième a un petit peu moins plu visiblement à Laurent Wauquiez. C'est un reportage qui était pourtant assez éclairant, de quelques minutes, qui revenait sur les prétendues économies réalisées par Laurent Wauquiez depuis qu'il est arrivé, puis qui déconstruisait un petit peu le discours officiel en montrant qu'il y avait des tours de passe-passe et d'enfumage sur des économies qui n'en étaient pas réellement, puisque c'était soit des conséquences de choix budgétaires des années précédentes, soit en réalité plutôt des investissements qui auraient dû être faits et qui n'ont pas été faits, comme ça a été le cas dans la formation professionnelle par exemple, et que du coup, il n'y avait pas forcément de quoi s'en vanter. En plus, le reportage pointait le fait que Laurent Wauquiez avait inventé un classement des agences de notation pour se vanter d'être la région la mieux classée. Or, ce classement voilà, n'existe pas. Donc tout ça fait que Laurent Wauquiez, visiblement, a pris la mouche. Et la rédaction de France 3, en tout cas sa direction également. Et puis, on a eu la surprise de voir dans la journée une annonce de la déprogrammation des épisodes restants. Et nous qui avions relayé ça sur les réseaux sociaux, eh bien, tous nos relais se sont effacés d'un coup puisque la publication a été supprimée carrément, notamment de Facebook. Alors, coup de chance, on avait un petit peu été alerté avant, on avait senti le truc venir, donc on avait enregistré les émissions qui avaient déjà été diffusées, donc ce qui nous a permis de les remettre instantanément sur nos comptes du groupe du Rassemblement et d'aboutir finalement un peu à un effet stressant, hein. C'est-à-dire qu'à force de vouloir cacher les choses et de mettre la poussière sous le tapis, ça n'a fait que attirer l'attention finalement sur ces reportages qui ont été vus des dizaines de milliers de fois, beaucoup plus sûrement que s'il n'y avait pas eu tout ce pataquès. Et puis bon, les journalistes de France 3, un certain nombre, sont montés aussi au créneau en interne. Et donc la direction finalement a dû reprogrammer, remettre en ligne et finir de projeter l'ensemble des reportages qui avaient été prévus, tout en fournissant un droit de réponse à Laurent Wauquiez. Donc voilà, mais tout ça a créé effectivement une petite ambiance, on va dire, au sein de la région.
Alors c'est quoi, vous écharpez comme ça de bureau à bureau avec des mots fleuris quand l'ambiance dérape sur un événement comme celui-là?
Ah non, on est dans une institution de la République.
Bah, donc, on entend des trucs des fois dans les grandes institutions qui font rire. Hein.
Non, je dois dire que tout ça reste très cordial. C'est peut-être parfois dommage d'ailleurs. Je me demande si finalement de bonnes explications un peu franches de temps en temps ne feraient pas du bien. Mais non, tout ça reste toujours très feutré, très cordial. Et c'est vrai que les dernières fois où nous avons vraiment eu des échanges de mots d'oiseau, ça venait plutôt des rangs des élus du Front National, notamment lors du précédent mandat où nous avions des élus qui revenaient parfois légèrement enivrés après l'heure du déjeuner et qui avaient un petit peu du mal à se tenir dignement dans l'Assemblée. Donc en général, c'était plutôt de là que ça venait. Mais de manière générale, les élus essayent de respecter un tout petit peu la dignité de l'institution républicaine.
Me voilà peut-être rassuré. Les sujets de cette commission permanente, il y en avait deux, selon vous, essentiellement. La montagne, on en parlera après. Un flux, un flot, une grosse vague, un ruissellement de subventions pour le Puy en Velay.
Oui, alors...
s'est passé dans la presse partout. Hein. Là, on l'a bien vu circuler.
Oui, tout à fait. Il y a même eu un reportage de l'œil du 20h sur France 2, sur les réseaux clientélistes de Laurent Wauquiez. Et puis, c'est un exemple parmi d'autres, mais il est tellement éclairant que je voulais le souligner. C'est qu'à chaque commission permanente, nous avons systématiquement une flopée de rapports qui vont arroser tout azimut la ville du Puy-en-Velay. Alors il faut rappeler que Laurent Wauquiez en est originaire, qu'il en a été le maire et que visiblement il a à cœur de continuer à faire du bien à sa ville, sauf qu'aujourd'hui il est président de région et que ce n'est pas forcément ce qu'on attend de lui. Alors là, à nouveau, jackpot donc pour les heureux habitants du Puy-en-Velay, puisque rien que sur cette commission permanente, on a dénombré 600 000 euros pour la réfection du stade d'un lycée du Puy-en-Velay, ce qui n'est pas forcément mal en soi, mais on en voudrait autant pour l'ensemble des lycées de la région dont certains auraient bien besoin d'argent, ne serait-ce que pour la réfection primaire, j'ai envie de dire, des fuites d'eau et autres portes qui ne ferment pas.
Oui, il y en a qui n'ont pas de stade, hein. C'est ça que je...
Tout à fait, absolument. on a aussi eu 24 000 euros pour l'aérodrome du Puy-en-Velay, 400 000 euros pour la construction d'une maison de santé au Puy-en-Velay, 158 000 euros pour l'embellissement de la ville haute du Puy-en-Velay et 457 000 euros pour l'installation de conteneurs enterrés au Puy-en-Velay. Voilà, tout ça fait à nouveau de jolies sommes qui viennent s'ajouter aux innombrables déjà votées depuis le début de la présidence de Laurent Wauquiez à cette région.
Là, les villes, on peut imaginer que toutes font ce type de demande à la région. Voilà, aidez-nous pour ça, pour ça, pour ça. Et donc, elles ne passent pas en commission. Je sors un autre exemple. Voilà, la ville de, Clermont fait cette même demande. Je voudrais qu'on m'aide à enterrer mes conteneurs. Et ça, c'est pas signé? Ou c'est alors, signé qu'au Puy, où il n'y a que le Puy qui demande, ou on ne propose que ça à discuter?
Alors non, toutes les villes, effectivement, font des demandes. Et d'ailleurs, elles s'inscrivent dans des appels à projets qui sont initiés par la région. Hein, parce qu'il y a des programmes d'embellissement de centre-ville, il y a des programmes d'aide à des bourgs-centres, il y a des programmes d'aide à la ruralité, donc il y a pas mal de programmes dans lesquels les villes peuvent, les villes et les villages peuvent effectivement effectuer ces demandes. Donc toutes le font. Après, il y a un processus d'instruction qui, aujourd'hui, est de plus en plus resserré sur le président et son cabinet, puisque toutes les instances de concertation locale, comme on les avait auparavant, hein, type CDDRA, ont été supprimées. Donc c'est à la discrétion, soit des élus référents dans le territoire, qui sont tous de la majorité de Laurent Wauquiez, soit directement des vice-présidents ou de Laurent Wauquiez lui-même. Et il se trouve qu'il y a une inégalité qui est en train de se confirmer mois après mois sur ces demandes. Alors il faudra voir au prochain compte administratif, mais quand on a eu avec le compte administratif l'an dernier le récapitulatif de l'ensemble des subventions accordées à des agglos, on a constaté des très très grosses différences de 1 à 10 de subventions par habitant et par ville, avec une tendance, alors on verra si elle se confirme, à ce que ça aille plutôt vers des villes amies ou susceptibles de basculer aux ennemis. Entendez par là des villes tenues par des maires de droite proches de Laurent Wauquiez, comme c'est le cas à Vienne par exemple, ou des villes pas forcément proches de Laurent Wauquiez, mais qui pourraient aux prochaines municipales rester ou basculer à gauche. Je dis gauche au sens très large de l'échiquier politique. Donc il y a, voilà, pour l'instant, une suspicion très forte, effectivement, de clientélisme et d'intérêt politicien à aller arroser certaines villes plutôt que d'autres, qui correspondent non pas à une évaluation des besoins réels, mais plutôt à des futurs services rendus ou services rendus passés, en tout cas à une logique carriériste de la part de Laurent Wauquiez.
Cette logique carriériste, on l'a bien vu, l'a amené finalement à la tête du parti, les Républicains. Quel donc pourrait être encore son enjeu finalement à la région, à part arroser le Puy-en-Velay ou quelques-uns de ses amis? C'est plus son endroit, cette région Rhône-Alpes-Auvergne?
En réalité, si, puisque ce que Laurent Wauquiez a dans le viseur, c'est l'élection présidentielle de 2022. Or, il se trouve que les prochaines élections régionales auront lieu avant, en 2020 ou 2021. Imaginez la tête qu'aurait la candidature de Laurent Wauquiez si il n'est pas capable de garder, entre guillemets, la région à droite. Imaginez que les Républicains perdent la région. Ce serait évidemment pour lui une sacrée épine dans le pied pour se poser en sauveur de la France s'il n'est même pas capable, entre guillemets, de garder, de garder sa région. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il ne faut pas sous-estimer l'influence des lobbies et des réseaux que Laurent Wauquiez est en train aujourd'hui de fortifier justement par ses subventions publiques. Quand on parle de la Fédération régionale de la chasse, quand on parle de la FNSEA via les chambres d'agriculture, tout ça, c'est des réseaux nationaux. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la deuxième région de France. Donc, trouver des appuis dans la deuxième région de France, c'est trouver des appuis aussi à l'échelle nationale pour les futures campagnes électorales à venir. On l'a vu d'ailleurs pendant les dernières élections régionales, c'est la tactique qui avait déjà été employée par Laurent Wauquiez. Il leur avait promis beaucoup de choses, qu'il est d'ailleurs en train de tenir, il faut lui reconnaître ce mérite. Et c'est aussi ce qu'il a propulsé à la tête de la région. Donc Laurent Wauquiez maîtrise excellemment toutes ces combines et tous ses intérêts politiciens. Et aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il en joue de manière particulièrement habile et qu'il est en train de préparer son tremplin pour 2022 de manière systématique, patiente et jusqu'ici malheureusement plutôt efficace.
Oui, il se revendique même dans l'opposition, j'ai vu, au gouvernement Macron par exemple. On parle de la montagne. Alors là, peut-être pour une fois, on va vous entendre heureuse. Non, si on vous entend souvent heureuse, ce n'est pas le bon terme, mais en tout cas contente.
Oui, tout à fait. C'est vrai que je dois reconnaître, et il faut le souligner quand c'est le cas, que j'ai été très surprise de l'ambiance lors de la dernière commission montagne. Jusqu'ici, vous le savez, mes relations avec son président Gilles Chabert ont été pour le moins tendues. Et puis là, j'ai eu la surprise. Alors, c'est peut-être l'effet justement vœux et nouvelle année de voir Gilles Chabert venir vers moi avec un grand sourire, me souhaiter la nouvelle année et commencer à papoter sur les chutes de neige dans les Alpes, l'état des stations de ski. Alors effectivement, il était tout content. Il était tout content et d'ailleurs moi aussi. Donc j'ai pas eu de problème à partager sa réjouissance. Mais surtout, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que au cours de cette petite discussion à bâton rompu avant que la commission commence, Gilles Chabert, comme je lui faisais remarquer que on avait quand même eu une alternance de très fortes chutes de neige avec dès le lendemain une variation de température jusqu'à 15 degrés. Moi, j'étais du côté de Montgenèvre et c'est ce qu'on a vécu avec des jours de pluie suivant les jours de neige. Gilles Chabert a fini par me dire que quand même, effectivement, tout ça était un peu étrange et que si ça continuait comme ça, il allait finir par reconnaître qu'il y avait peut-être quand même un dérèglement climatique. Et là, je dois vous avouer que c'est effectivement une petite satisfaction personnelle. Après 2 ans à intervenir en commission, au congrès de l'ANEM, en assemblée plénière sur cette question, de voir enfin Gilles Chabert admettre du bout des lèvres que le dérèglement climatique en montagne est une réalité et que cela pose des questions sur l'avenir des stations. Alors, ce n'est qu'un premier pas, mais un pas quand même important. On sait à quel point la bataille culturelle est importante hein, en la matière. Et puis, il se trouve que cette commission était aussi intéressante à 2 autres titres. D'abord parce qu'on y a étudié le 2e volet de ce plan montagne qui jusqu'ici était un plan neige, voire un plan ski, voire un plan canon. 2e volet sur l'hébergement, qui est une bonne nouvelle, puisque des fonds vont être débloqués sur l'hébergement, notamment des saisonniers, mais pas seulement, sur les centres de loisirs aussi pour les scolaires et pour les enfants, par exemple. Donc ça, c'est une très bonne chose. Alors, bon, comme on n'est jamais content, paraît-il à gauche, je regrette un peu qu'il n'y ait que 5 millions sur ce volet-là, alors que 33 ont déjà été dépensés sur les canons à neige. Mais enfin, là aussi, c'est un début qu'il faut encourager. Et puis, 3e élément de satisfaction, c'est qu'on auditionnait Marie-Noëlle Battistel dans cette commission, qui est la présidente de l'ANEM, l'Association nationale des élus de montagne, et que, puisqu'elle nous parlait notamment de l'article 8 de la nouvelle loi de montagne qui reconnaît donc dans la loi la spécificité des territoires de montagne en termes de difficultés liées à l'isolement, à l'impracticabilité des routes pendant l'hiver, etc., avec des dérogations spéciales qui sont aujourd'hui inscrites dans la loi, notamment sur les écoles, mais aussi sur l'accès aux soins et la santé. Eh bien, je l'ai naturellement interpellée sur la fermeture de la maternité et de la chirurgie d'urgence à l'hôpital de Die, en lui demandant si les services juridiques de l'ANEM, dont elle avait fait mention, pouvaient se mobiliser pour nous aider sur d'éventuels recours, par exemple, au titre de cet article 8 de la loi. Marie-Noëlle Battistel, c'est bien parce qu'elle pensait que seule la maternité avait été fermée, donc, et que la députée En Marche, Célia de Lavergne, se mobilisait pour défendre tout ça. Donc ça a permis quand même de la remettre à un niveau d'information un petit peu actualisé. Et puis comme elle doit avoir, m'a-t-elle dit, un rendez-vous avec la députée, elle s'est engagée à lui en parler. Donc voilà, je suis pas sûre que tout cela mène à une révolution, mais en tout cas ça permet une fois de plus de propager l'information, de continuer à alerter et de faire en sorte qu'un maximum de gens entendent parler de cette affaire, de ce scandale et puissent s'en saisir.
Je veux revenir un petit peu sur cette question du dérèglement climatique, enfin la conscience écologique hein, qui peut-être est en train, on sent, hein, de prendre. En tout cas, un certain nombre d'élus dont vous faites partie continuent de marteler ce discours. Si, j'allais dire, le peuple prend petit à petit conscience, comment vous le ressentez chez les élus globalement, la région Auvergne-Rhône-Alpes? Bon, on le voit, hein, on ne fait pas toujours des choix non productivistes sans doute, mais globalement, est-ce que c'est quelque chose qui commence à être compris, même si on on vote pas dans le bon sens?
Mais de manière générale, il y a une prise de conscience. La question du climat est aujourd'hui de plus en plus présente dans les discours et dans les esprits, je pense, vraiment, même du côté des élus. Donc ça, on ne peut que s'en féliciter. Moi, je me rappelle honnêtement, il y a 10 ans, quand on parlait de sobriété, de transition énergétique et de renouvelables, on était moqués, ridiculisés. Donc il faut reconnaître que de ce côté-là, il y a eu un progrès. Après, la difficulté à laquelle on est confronté, c'est presque la rançon du succès, c'est que du coup, il y a une institutionnalisation de ce discours qui le normalise, mais qui du coup provoque pas un sursaut. Voilà, c'est devenu normal de dire que il y a du dérèglement climatique et que c'est pas bien. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il y a un sentiment d'urgence ni d'alerte, et encore moins que c'est suivi d'effets. Donc on est quelques-uns à penser qu'il est peut-être temps de passer à un autre degré de discours, et c'est quelque chose qui se développe beaucoup, hein, avec la théorie de l'effondrement, avec du côté des sciences et des universitaires aussi, tout le courant autour de la collapsologie, pour alerter de plus en plus et de plus en plus fortement, en arrêtant d'être trop positif et mesuré, puisque visiblement ça ne fonctionne pas. Et maintenant, voilà, de commencer à dire oui, il faut faire peur aux gens. Et ce n'est pas du catastrophisme, c'est que la catastrophe, elle est déjà là. Et qu'aujourd'hui, ça devient une question de préservation même des conditions de la vie humaine sur Terre. Donc il est plus temps de tergiverser. Et c'est vrai que au niveau de la région, on voit que le discours commence à être intégré, mais pour autant, ça n'empêche pas l'exécutif et la majorité de continuer à promouvoir des projets totalement climaticides et écocides, source de pollution, d'émissions de gaz à effet de serre, de bétonisation de terres agricoles, comme le Lyon-Turin, comme le projet d'A45 entre Lyon et Saint-Étienne, qui sont autant de projets qui viennent totalement contredire et annihiler tous les jolis discours que peuvent tenir les mêmes sur le climat. Voilà, il y a probablement un nouveau souffle à trouver, un nouvel élan à donner à ce mouvement, tout en continuant à le mettre en lien aussi avec la société et le système économique dans lequel on vit, hein, puisque tous ces gens qui se piquent de défendre le climat et l'écologie, mais qui ne remettent pas en cause le système capitaliste et qui ne pointent pas les vrais responsables que sont les banquiers, la finance mondialisée, etc., en réalité, ça s'accommode très bien du système tel qu'il est, et on se retrouve dans tous les phénomènes qu'on connaît de greenwashing, de capitalisme vert, d'écologie libérale ou que sais-je, qui en réalité, évidemment, ne résolvent absolument rien au problème.
Bah comme ça, on va quitter cette commission permanente pour aller sur d'autres sujets et avec qui on peut faire des liens très très rapidement. Notre-Dame-des-Landes, hein, c'est fini. Voilà un grand projet inutile bétonné aux dépens de terres agricoles qui s'arrête. On parlait de la 45 ou du Lyon-Turin il y a quelques instants. Un mot là-dessus, et puis qu'en pense la région aussi?
Ah ben, un mot, voire plusieurs, très honnêtement, c'est la meilleure nouvelle qu'on ait eue depuis des années.
50 ans, 30
ans. Moi-même, je dois dire que j'ai encore un petit peu du mal à réaliser, pour tout vous avouer.
On se demande si on est bien sûr, d'ailleurs. Est-ce que ça va pas vriller à la dernière minute?
Presque du mal à y croire, tellement c'est bon. Moi, ça fait 10 ans que je vais sur Notre-Dame-des-Landes et que je suis ce combat, et on est très nombreux depuis des années à penser que c'était le combat qu'on ne pouvait pas perdre. La première chose, c'est de savourer quand même cette victoire. Après, évidemment, elle ne résout pas toutes les questions, et notamment pas l'avenir de la ZAD et de tous les gens qui se sont installés sur cette zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, qui y exercent une activité, qui y vivent, qui essayent d'y inventer d'autres manières de faire société et un autre monde. Et donc voilà, le combat continue, et il y aura un gros rassemblement à Notre-Dame-des-Landes le 10 février pour justement rappeler ça, les soutenir et défendre cette zone. Mais enfin, quand même, Il faut reconnaître que sur ce coup-là, le gouvernement a été particulièrement habile, puisque d'abord l'abandon du projet en tant que tel, la manière dont ça a été amené et les pistes avancées sont tout de même assez raisonnables, notamment sur le fait de ne pas aller à l'évacuation musclée d'emblée comme on le craignait. Donc de ce côté-là, c'est à saluer. Je crois que des discussions sont aujourd'hui possibles. Il y avait notamment un préalable qui avait été mis sur le déblaiement d'une route départementale, la route des Chicanes, qui est en cours par justement les opposants eux-mêmes.
C'est fini même, j'allais dire. Elle est ouverte là, hein, ça y est.
Voilà, donc ça c'est aussi des signaux d'apaisement voilà, qui sont, on va dire, envoyés aujourd'hui de part et d'autre et qui laissent ouvert la piste d'un dialogue enfin sur l'avenir de cette zone. Après, bon, il faut. Enfin, moi, j'ai quand même noté par rapport à ce qu'on disait à l'instant sur l'écologie et le dérèglement climatique que ça n'a pas été une seule fois évoqué par le Premier ministre dans son discours, que lui a entièrement axé ça sur l'apaisement et une certaine forme d'ordre et de retour à la paix civile, on va dire. Donc, je suis pas sûre, voilà, que ce soit les arguments premiers, mais enfin, une fois de plus, l'essentiel pour l'instant est que ce projet ait été abandonné, quelles que soient les intentions du gouvernement, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui y vivent, pour le climat, pour l'environnement, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées mille fois pendant toutes ces années de lutte. Après, du côté de la région, Laurent Wauquiez, je pense, a dû passer de très mauvaises journées, puisque le matin même de l'annonce, il était une fois de plus, je ne sais plus, sur BFM ou RTL pour dire que ce serait un recul du gouvernement et une victoire des zadistes. Eh bien, effectivement, c'est à une victoire des zadistes qu'on a pu assister, ce qui est... Voilà, aussi une pierre dans le pré des droitiers de LR. Et là aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Quel signal, selon vous, est envoyé aux autres ZAD? Et je pense particulièrement à celle de Bure, puisque nous, on a eu des témoignages ici, même sur cette antenne. Et puis, pourquoi pas à ceux qui sont contre la 45. Est-ce que c'est le moment là, d'y aller franchement et de faire, non pas reculer le gouvernement sur toutes ces décisions, mais de les changer puisqu'elles sont mauvaises?
Ben, effectivement, enfin, je ne suis pas sûre que ce soit le message que pensait envoyer Édouard Philippe. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tout ça nous prouve que la lutte paye et que quand les combattants sont unis, quand on a à la fois des riverains, des habitants, des élus, des agriculteurs, voilà, que tous ces gens-là se mettent ensemble, et ben on devient une force qu'il est quand même plus difficile de contourner. Alors il y a eu effectivement pas mal de prises de position, hein, que ce soit du côté de Bure, de Roibon, du côté des opposants aussi à l'implantation d'un Center Parcs, de la 45 ou du Lyon-Turin, et évidemment qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud, notamment pour faire en sorte que cette victoire en appelle d'autres. Alors après, les grands projets inutiles et imposés qu'on vient de citer sont très différents les uns des autres. Hein. Tous n'ont pas le même contexte, tous ne bénéficient pas du même soutien de la population localement, mais certains ont énormément de points communs. Je pense notamment au Lyon-Turin, où on retrouve la patte de Vinci, ce qui est le cas aussi du côté de la 45, hein, puisque la concession a déjà été promise à Vinci, où on retrouve... pour le cas du Lyon-Turin, une lutte qui dure là aussi depuis des années et des années, avec des enjeux financiers extrêmement importants. Voilà, donc il y a beaucoup de caractéristiques communes. Et puis surtout, il y a aujourd'hui une dynamique commune. C'est-à-dire que depuis des années, et notamment à l'initiative justement de Notre-Dame-des-Landes, des réseaux se sont tissés à l'échelle française, mais aussi à l'échelle européenne, de tous ces grands projets inutiles et imposés. Et c'est ce qui aujourd'hui peut faire leur force. Ce sont des gens qui se connaissent, qui se sont déjà mobilisés ensemble, qui ont fait des déclarations communes, qui connaissent leurs points d'appui et éventuellement leurs faiblesses et qui savent pourquoi ils sont là. Et donc aujourd'hui, il y a une forme de solidarité entre toutes ces luttes qui se reconnaissent et qui s'entraident, qui est évidemment appelée à se prolonger et à s'amplifier avec, avec cette victoire à Notre-Dame-des-Landes. Et c'est vrai que Bure, notamment, est un lieu particulièrement important, donc un projet de centre d'enfouissement de déchets nucléaires qui se fait dans des conditions absolument désastreuses et avec un niveau de dangerosité pour les générations actuelles et futures qui est assez inédit, hein. il faut bien le rappeler. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y a effectivement un début de mouvement, de transfert d'énergie de Notre-Dame-des-Landes vers Bure, qui sera probablement le prochain gros lieu de mobilisation pour faire annuler ce projet qui est, une fois de plus, dramatiquement inquiétant et dans des proportions absolument sidérantes.
Voilà, c'était la question que j'avais posée. Et finalement, les personnes mobilisées à Notre-Dame-des-Landes, qu'Édouard Philippe ne s'inquiète pas, ils vont aller ailleurs. La plupart n'ont pas prévu de rester sur place. Et ça, depuis, enfin, vous qui y êtes passé, beaucoup étaient là pour soutenir cette lutte, militer sur place et bougeront probablement sur la prochaine.
Oui, et puis, enfin, il y a eu une telle confusion autour de la ZAD. Il y a eu pas mal de décryptage de ces fake news, comme on dit maintenant. Mais il faut rappeler que sur la ZAD, les gens qui y sont installés, c'est 150 personnes. Il ne faut pas imaginer qu'il y a des dizaines de milliers de sauvageons en train de courir et de hurler dans tous les sens. On parle de 150 personnes, dont beaucoup sont des familles qui vivent là, qui cultivent la terre, qui exercent des activités artisanales, qui vivent ensemble, qui se réunissent régulièrement dans l'assemblée des usages pour discuter ensemble et faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit dans la zone. Enfin, voilà, faut remettre les choses à leur juste proportion. Et après, c'est au moment de rassemblements spécifiques que effectivement affluent des gens, des militants, des naturalistes qui viennent de partout soutenir de manière ponctuelle ces gens-là et ce qu'ils sont en train d'inventer et de construire. Le jour où la ZAD sera sécurisée, où on sera rassuré sur la manière dont ça se passe dans le respect des gens qui se sont installés là maintenant depuis plusieurs années et qui y vivent, les rassemblements de soutien continueront à se faire ailleurs de manière amplifiée peut-être. Mais voilà, de la même manière que les rassemblements à Notre-Dame-des-Landes n'ont jamais empêché les rassemblements ailleurs, simplement là, voilà, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre l'énergie qui était mobilisée sur Notre-Dame-des-Landes sur d'autres mobilisations qui sont elles aussi importantes et cruciales, et que ça ne peut que renforcer les opposants qui sur place, et je voudrais le saluer là, hein, font quand même preuve d'une ténacité et d'un courage face aux intimidations assez remarquables. C'était le cas aussi à Sivens. Moi, quand j'y étais allée, il y avait tous les soirs des dispositifs, disons-le, de ratonnade de la part de gros agriculteurs du coin qui venaient armés sur la zone pour casser de l'opposant à Sivens. Voilà, donc il faut aussi rendre hommage à ces gens qui résistent en notre nom, au nom de l'intérêt général et des générations futures, dans des conditions qui sont parfois particulièrement odieuses.
L'occasion de leur dire merci une nouvelle fois et de glisser vers une autre victoire pour l'environnement, un autre merci sans doute à donner, c'est l'arrêt de la pêche électrique. Enfin, on a commencé à voter déjà à l'Europe, c'est un gros dossier.
Oui, tout à fait. Il y a eu, c'était la veille de l'annonce de l'abandon du projet à Notre-Dame-des-Landes. Donc coup sur coup de victoire, on n'est pas habitué, mais on était très contents. C'était donc le lundi d'avant. C'est un amendement qui a été déposé par beaucoup de députés européens de plusieurs groupes. Il faut d'ailleurs le saluer, aussi bien du côté de la gauche européenne que du côté des Verts européens. C'est un amendement qui a été porté donc par le premier signataire, qui est un député insoumis qui s'appelle Younous Omarjee. qui visait à interdire la pêche électrique dans l'Union européenne. Alors, c'est une des pratiques qui a été beaucoup documentée par des associations comme Bloom, par exemple, hein, de défense des océans et de la ressource halieutique, hein, comme on dit pour parler des poissons, parce qu'elle est particulièrement destructrice, qu'elle tue beaucoup de poissons qui sont ensuite relâchés parce qu'ils ne sont pas dans les standards pour la pêche commerciale, qui nuit en plus aux petits pêcheurs qui arrivent après et puis qui retrouvent que des poissons morts. Enfin bon, bref, c'est extrêmement...
Ça détruit les fonds marins aussi.
Absolument, c'est extrêmement nocif et particulièrement inacceptable quand on connaît déjà aujourd'hui l'état de cette ressource en poissons, des mers et des océans. Donc l'amendement a été adopté, ce qui est évidemment une victoire formidable. Bon, pour le coup, ça ne suffit pas tout à fait, puisque maintenant il y a des négociations qui vont commencer avec le Conseil de l'Europe, le Conseil européen et le Conseil des ministres de la pêche européen. Donc on attend évidemment de voir ce que donnent ces discussions, sachant que la France est représentée dans cette instance par un ministre qui n'est pas le plus écolo du gouvernement, puisqu'il s'appelle Stéphane Travert, qui est ministre de l'Agriculture et de la Pêche, qui ne s'est pas illustré jusqu'ici pour ses déclarations particulièrement en défense de l'environnement, puisque ça fait partie des gens qui voulaient prolonger le glyphosate notamment. Donc on espère qu'il tiendra une position pour la France en faveur de l'interdiction définitive et totale de ces pratiques qui sont poussées aujourd'hui, notamment par les Pays-Bas, au niveau de l'Europe.
Oui, c'est ça. C'est principalement un combat contre un pays, puisque même la France, je crois, le pratique plus tant que ça. Très, très peu de sociétés le font en France. Et c'est vraiment aux Pays-Bas que ça se... C'est le système de pêche le plus utilisé.
Oui, tout à fait. Et en plus, la situation est particulièrement absurde, hein, puisque théoriquement, la pêche électrique était déjà interdite au niveau de l'Union européenne, mais qu'à force de dérogations et de niches, comme d'habitude, les Pays-Bas ont réussi à s'engouffrer dans une sorte de brèche réglementaire, on va dire. Effectivement, la pêche électrique est devenue aux Pays-Bas une pratique majoritaire et très répandue. Et c'est effectivement une spécificité de ce pays.
Puisqu'on parle d'écologie, on va terminer sur une note un peu plus triste, sans doute. Vous avez envie de rendre hommage à une élue d'Europe Écologie Les Verts.
Oui, tout à fait, puisque ce début d'année a aussi été un début d'année endeuillé, puisque nous avons perdu Annie Agier, qui était conseillère régionale d'Europe Écologie Les Verts pour la Drôme lors du mandat précédent. Annie siégeait juste derrière moi dans l'Assemblée régionale et puis on était toutes les deux de la Drôme, donc on a eu l'occasion évidemment de faire pas mal de choses ensemble. Je me souviens notamment d'une lutte contre l'implantation d'un décathlon Auxilane sur des terres agricoles près de Valence, sur laquelle Annie Agier a été très active. C'est quelqu'un qui était une militante très respectée, très active aussi dans le combat contre le nucléaire. Elle est décédée le 1er janvier des suites d'un cancer qui a été malheureusement, une fois de plus, comme souvent, assez foudroyant. Et donc j'avais envie de lui rendre hommage parce que c'est quelqu'un qui a été une militante inlassable de causes qui nous rassemblaient. Ça me semblait important de saluer sa mémoire aussi sur les ondes de cette radio à l'occasion de ce compte-rendu de mandat.
Et puis ça nous remémore un petit peu les personnalités qui ont été nos élus. Merci pour ça. Pour terminer ce tour de sujet qui nous éloigne de plus en plus de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais qui font quand même, en tout cas, ce que vous êtes, une militante aussi de terrain. Là, en ce moment, en Turquie, c'est la bataille rangée contre les Kurdes. C'est engagé. Trois villes, un espèce de front, on a appelé ça, c'est très joli, hein, c'est un rameau d'olivier. Donc, il faut faire une belle guerre. Les Kurdes, vous les suivez depuis un moment en Turquie.
Oui, alors c'est vrai que c'est éloigné de la région. En même temps, moi, je n'oublie pas qu'en tant que conseillère régionale, je suis aussi élue de la République française. Et que la France est un pays qui a aujourd'hui un rôle au niveau international, qui est membre de l'OTAN, qui est membre de l'ONU, qui est membre de l'Union européenne, qui aujourd'hui a notamment un accord sur la contention, je ne sais même pas comment traduire ça, des réfugiés avec la Turquie, puisque la Turquie aujourd'hui est payée par l'Union européenne pour retenir les réfugiés de guerre, notamment syriens, dans son pays. Bref, pour toutes ces raisons-là, la République française aujourd'hui a évidemment des choses à dire sur ce qui se passe ailleurs, notamment sur ce qui se passe en Turquie et en Syrie. Et il se trouve que ce qui se passe aujourd'hui en Turquie et en Syrie, c'est que le président turc Erdogan a envahi la Syrie en lançant une offensive depuis plusieurs jours de bombardement par l'armée turque sur une zone de la Syrie qui fait partie du Rojava, sur notamment une ville qui s'appelle Efrin, qui est une zone qui est une des premières à avoir échappé à l'influence de Bachar el-Assad en 2012, à avoir accueilli des réfugiés, à avoir pu leur proposer un lieu de paix relative au milieu du chaos qu'était la Syrie, qui est sous administration kurde, mais qui accueille bien d'autres cultures que la culture kurde. Et qui aujourd'hui est donc bombardé par l'armée de M. Erdogan. Il y a notamment un camp de réfugiés, de 20 000 réfugiés, qui a fait l'objet de bombardements il y a 3 jours. Et on attend désespérément une réaction de toute la coalition internationale, des Nations Unies, de tous ces gens qui ont été les premiers à financer et à armer les Kurdes syriens quand il s'agissait de combattre Daesh, que ce soit à Kobané ou à Raqqa, et qui aujourd'hui laissent bombarder ces mêmes combattants kurdes par Erdogan, sans rien dire. Et quand je dis sans rien dire, c'est appuyé malheureusement par des faits, puisque le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni hier, à la demande de la France, il faut le souligner, mais n'a pas condamné l'offensive turque, qui est une invasion, qui est un crime de guerre, puisque c'est une offensive contre une entité qui ne la menaçait pas. Et donc, les Nations Unies se sont contentées de quelques déclarations appelant M. Erdogan à la retenue. Quand des populations civiles sont bombardées, après avoir combattu Daesh, avec les hurrahs de la coalition internationale et de l'ONU, appeler à la retenue, c'est particulièrement odieux et inacceptable. Je voulais en parler parce que je dois dire que c'est une des choses qui en ce moment agite beaucoup mes jours et mes nuits. Il y a une pétition qui circule, il y a des informations qui circulent. Je vous renvoie au compte Twitter du comité démocratique kurde en France ou à ma page Facebook sur laquelle je relaye aussi les événements et puis les manières dont les uns et les autres peuvent s'en saisir. Il s'agit là, pour le coup, de signer ces pétitions. Alors, je sais que signer des pétitions, c'est parfois un petit peu désespérant parce qu'on a l'impression que ça ne sert à rien. Là, pour le coup, vraiment, ça sert. Il faut diffuser ces informations, il faut le faire savoir, il faut les faire remonter. Quand on n'est pas sur Paris, on ne peut pas forcément manifester, participer aux marches spontanées qui s'organisent là depuis quelques jours. Mais il faut faire savoir ce qui se passe et ne pas participer à cette hypocrisie totale qui consiste à laisser bombarder ceux qu'on soutenait hier face aux djihadistes.
C'est encore une histoire avec le PKK, c'est ça ? Enfin, c'est le prétexte pour,
oui,
pour
bien
les Turcs
sûr.
À attaquer ces Kurdes, on le rappelle, effectivement, en Syrie. Qu'en pense Bachar el-Assad au passage, d'ailleurs ?
Je ne m'aventurerai pas à la moindre analyse de ce que pensait Bachar el-Assad. Bon, évidemment, la Syrie, comme vous pouvez l'imaginer, réagit très mal à ce qui est une invasion de son espace. Hein. Clairement, ça ne va pas arranger les tensions dans la zone. En réalité, Erdogan est clairement en train de relancer la guerre en Syrie. Alors, il y a plusieurs raisons ou hypothèses par rapport à ça. D'abord, la première chose, c'est qu'en 2019, l'année prochaine, il y a des élections générales en Turquie. Et que Erdogan a très bien compris qu'il a tout intérêt à maintenir une ambiance de guerre et un contexte militarisé, puisqu'on sait que dans ces cas-là, c'est toujours en faveur du régime en place. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que tout ça lui permet, sous couvert de lutte contre le terrorisme, puisqu'il assimile les Kurdes à des terroristes, hein, y compris les Kurdes syriens, qu'ils soient PKK ou affiliés, ça lui permet de continuer à effectuer des purges en Turquie. Là, depuis 3 jours, on continue à assister à de nouvelles rafles, de nouvelles arrestations de militants des droits de l'homme pour la simple raison qu'ils ont fait des tweets de soutien à la population d'Efrin, de journalistes, mais aussi de nouveaux députés du HDP, qui est la troisième force politique et la principale d'opposition à Erdogan. Donc ça lui permet au passage de continuer à décapiter ce mouvement politique en vue des élections générales, ce qui est évidemment bien pratique dans un contexte d'élection. Et puis ça lui permet enfin d'éviter de voir se former à la frontière entre la Turquie et la Syrie un territoire autonome, unifié, progressiste du Rojava, puisque aujourd'hui il y a 2 cantons, le canton de Kobané et le canton d'Efrin, qui constituent ce Rojava, aujourd'hui séparé par une zone qui n'est pas autonome. Donc ça, évidemment, c'est ce que redoute le plus Erdogan, même si, il faut bien le préciser, tout ça se passe en Syrie et non pas côté turc, d'une part, et que d'autre part, le HDP en Turquie n'est pas séparatiste et ne réclame pas l'indépendance des Kurdes. Le HDP revendique le droit à l'ensemble des peuples et cultures de Turquie à vivre ensemble en paix et en harmonie.
Et on peut noter du coup que de l'autre côté, en Syrie, on accepte que les Kurdes prennent un peu d'autonomie finalement.
Oui, oui, tout à fait. Et puis dernière chose, je le disais au début, je ne sais pas si c'était très clair, je le redis plus clairement ici, la Turquie de M. Erdogan est aujourd'hui payée par l'Union européenne pour gérer l'arrivée de réfugiés de guerre de Syrie. De là à imaginer que la Turquie a un intérêt objectif à ce que la guerre en Syrie se poursuive et qu'il y ait de nouveaux réfugiés de guerre pour lesquels elle se fera rémunérer par l'Union européenne, il n'y a évidemment qu'un pas.
On va avoir encore un esprit tordu. Merci Corinne Morel-Darleux. On va se retrouver après le 29 mars, puisque là il y aura une plénière.
Oui, tout à fait. Le 29 mars, nous aurons enfin à nouveau une assemblée plénière, donc dans laquelle nous pourrons enfin à nouveau avoir publiquement des débats politiques sur l'ensemble des délibérations qui seront proposées par Laurent Wauquiez et sa majorité.
Voilà, ben on espère qu'il y en aura beaucoup ou pas tant. Il ne faut pas que vous tapiez tout ça en 2-3 jours, c'est comme la dernière fois, non ?
Oui, oui, mais enfin, ça va, hein, on est habitué. Puis très honnêtement, jusqu'ici, on ne peut pas dire que la région nous fasse crouler sous le travail. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même de faire de la politique et de pouvoir faire avancer des textes. Donc on ne se plaindra pas, même si on croule sous les rapports en une semaine. On est là pour ça.
Merci, à bientôt.
Merci.
Okay, the bird.
L'interview du jour.